Le modèle danois, là c'est un sujet touchy. Oui, moi je suis pour une restriction, un contrôle de l'immigration, et ça, ça me paraît pas du tout hors sujet.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Deux heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Et aujourd'hui, on va parler d'un pays que Cyril, notre rédacteur en chef, connaît bien. Un pays qu'il confond toujours, c'est vrai, avec la Suède, la Finlande et la Norvège. Contrées enneigées où de grands blonds, au nom pas possible, boivent de l'alcool à 90 dans les crânes de leurs ennemis et qu'il regroupe sous l'expression parapluie de pays où il meule grave, tout en haut, au nord du mur. Voilà. D'où son 4 en géographie au bac. Le pays au nord du mur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Danemark. Un pays qu'on voit souvent comme une petite démocratie idéale où tout fonctionne bien avec un état-providence merveilleux et des cyclistes qui respectent le code de la route. Mais aujourd'hui, on va découvrir une autre facette de ce qu'on appelle le modèle danois, son rapport à l'immigration. Et là, on peut couper la musique de Disney parce que pour les étrangers, le Danemark, c'est pas la maison des poupées, c'est plutôt rester chez vous, il y a rien à voir. J'en étais sûr, on veut pas faire confiance à des gens qui sautent à poil dans l'eau glacée en sortant du sauna, s'exclame Cyril, heureux de voir qu'il avait percé à jour le mythe des gentils Danois. Et en effet, depuis une vingtaine d'années en matière d'immigration, le Danemark mène une politique qui serait susceptible de donner une demi-molle à Bruno Retailleau, voire à Jordan Bardella. Limitation extrême du regroupement familial, interdiction d'immigrer, si c'est pour s'installer dans des quartiers où il y a déjà trop, entre guillemets évidemment, de personnes d'origine étrangère, le Danemark a largement fermé ses frontières, et le plus fou, c'est que c'est même pas la droite qui l'a fait, mais la gauche. Alors, à quoi ressemble ce modèle danois? Cette émission va-t-elle donner des idées à Olivier Faure? Et le Danemark, c'est à gauche ou à droite de la Suède sur la carte? Bon, le temps que Cyril trouve, c'est parti.
Au nord.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Yvan Gasteau.
Bonjour.
Bonjour Yvan, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, chercheur à l'unité de recherche Migration et Société au sein de la Maison des Sciences de l'Homme de Nice et du Sud-Est, spécialiste de l'histoire de l'immigration. Vous avez coécrit en janvier dernier « France, terre d'immigration, 13 siècles de présence du Maghreb, de l'Égypte et de l'Orient ». C'est aux éditions Philippe Ray. Et vous êtes en duplex aujourd'hui avec nous des studios de nos confrères d'ICI Azur à Nice. Vous allez nous expliquer ce modèle danois entre guillemets et pourquoi il n'inspire pas que les partis de droite et d'extrême droite en Europe. Juste le temps de vous présenter ma fine équipe, dont la connaissance des pays scandinaves se résume à ce qu'ils en ont lu dans Astérix contre les Vikings. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour à tous.
Très bon numéro d'ailleurs.
Très bel album.
Ah, j'adore.
Astérix, un des meilleurs. Yvan Gasteau, zoom donc avec vous sur ce fameux modèle danois. Comment le Danemark est devenu un modèle? Comment il a réussi à influencer d'autres pays européens?
Alors c'est vrai qu'on regarde beaucoup du côté du Nord quand on parle de modèle social. Sur la question de l'immigration, on peut tout à fait être dans une réflexion sur l'originalité de ce pays, parce qu'aujourd'hui il polarise l'intérêt de tous ceux qui voudraient restreindre l'immigration. Et c'est vrai que le Danemark est devenu assez porté sur la question déjà il y a bien 20 ans en fait.
Hein. Ah oui.
Oui, en fait on a vu déjà des mesures qui ont été prises. La gauche était déjà présente dans une sorte de gouvernement d'union entre sociaux-démocrates et conservateurs au début des années 2000. Hein, je pense notamment à une figure au Danemark, qui est devenue ensuite secrétaire général de l'OTAN, qui s'appelle Rasmussen, qui était premier ministre. Hein, alors on sait que le Danemark est un royaume. Et bien dans ces années-là, 2001, on a commencé déjà à mettre en place une stratégie dont la gauche était partie prenante de refus d'une chose. En fait, le Danemark, c'était le refus du multiculturel, de vouloir préserver. Il y avait d'ailleurs un concept qu'on a retrouvé en France par ailleurs, c'était les Danois d'abord. Alors le Danemark, c'est finalement deux dimension, hein. C'est à la fois un pays qui est urbain avec Copenhague et quelques autres villes, mais c'est aussi un pays très rural et c'est de ce côté-là qu'on a développé ce slogan avec des mesures qui ont été largement marquées par... Alors, je vais employer un concept qui va peut-être vous faire bondir, hein, mais
allez-y.
Qu'on appelle le social-nationalisme.
Hein. À l'envers, c'est terrible, hein.
Voilà, à l'envers c'est terrible, mais c'est quelque part ça, c'est-à-dire de faire, et je résumerai les choses en un mot qui s'est forgé en 20 ans, c'est de considérer que pour améliorer la situation sociale des populations du populaire au Danemark, eh bien il fallait accentuer le nationalisme et renforcer des mesures de protection du peuple danois. Et il me semble que c'est cette valeur-là qui est venue à la gauche comme une sorte d'évidence.
Juin 1992, Euro de football en Suède. Devant sa télé à tube cathodique Toshiba, le petit Cyril Lacarrière a les yeux qui brillent. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a encore sniffé du tang. Non, ses yeux brillent devant les prouesses de l'équipe danoise. L'équipe surprise qui, cette année-là, vient à bout de l'Allemagne en finale et soulève le trophée. Cyril, qui est alors gardien de but du FC Ponto Combo, se fait cette promesse à lui-même, plus tard je serai le Peter Schmeichel français, une promesse que comme toutes les autres, il ne tiendra pas.
Non, mais ce qui est fou dans cet Euro, c'est comment nous on est mauvais.
Ah ben nous,
faut se souvenir du parcours de qualification qu'on fait, incroyable, il y a Cantona, il y a Papin et ensuite, on est nul.
On s'effondre ensuite. On s'effondre et on a tous soutenu le Danemark.
Michel Platini, non pas moi.
Ah bon,
Michel Platini est sélectionneur, on y croit, enfin, on pense qu'on est champion d'Europe. Quoi.
Vous n'avez vraiment pas de cœur.
Il y a encore le seum.
Pire nationaliste.
En plus, le Danemark, ils se font rattraper parce qu'ils n'étaient pas qualifiés.
Mais non, ils sont repêchés le Danemark et ils gagnent l'Euro. C'est une belle histoire. Les belles histoires, Cyril.
Vous êtes sur RMC, merci de nous écouter.
Racontez-nous, Cyril, le modèle danois, d'où ça sort ?
Imaginez le Danemark, un pays souvent perçu comme une sorte d'incarnation du bonheur, de l'égalité sociale. Le Danemark, c'est le pays du hygge, ce sentiment de bien-être qui parcourt la société. C'est aussi le pays qui incarne l'État-providence, des impôts élevés et un système social qui fait office de modèle. Bref, le rêve scandinave. Mais derrière cette façade attrayante se cache une des politiques d'immigration les plus strictes d'Europe.
Et comment s'explique ce qui peut paraître à la base comme une contradiction ?
Pour comprendre, il faut remonter aux années 2000. L'extrême droite monte dangereusement dans le pays, il est incarné par le Parti populaire danois, et ça fait peur au parti traditionnel car le discours prend dans la population. L'immigration menacerait l'équilibre culturel et financier du pays. Et c'est là que les sociodémocrates opèrent un virage idéologique. C'est le début d'une politique de tolérance zéro contre l'immigration non européenne. Ceux qui incarnent historiquement la solidarité adoptent une ligne dure par pur pragmatisme politique. Il naît là le modèle danois sur l'immigration. Et il se symbolise par ce qu'on appelle la loi ghetto, une loi avec des mesures radicales. Quelques exemples, le regroupement familial devient quasi impossible ou réduction drastique des prestations sociales pour les étrangers. On demande même aux Danois qui vivent dans ces quartiers d'envoyer leurs enfants à la crèche pour leur assurer une bonne éducation aux valeurs danoises. Il va aussi y avoir une externalisation des demandes d'asile. Alors, d'où ça sort le modèle danois sur l'immigration ? Eh bien, de cette peur de perdre l'État-providence face à la droite dure et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Yvan Gasteau, c'est finalement donc, on l'a dit, un parti de centre-gauche, les sociodémocrates, qui a mis en place cette politique de durcissement de l'accueil des immigrés. On peut parler de nationalisme de gauche au Danemark, parce que chez nous, le nationalisme de gauche, c'est un oxymore.
Alors il y a aussi en France un nationalisme de gauche, mais je ne crois pas que ce soit le sujet de l'émission, on pourrait faire des comparaisons, mais en tout cas oui, en tout cas pour le Danemark, il y a un nationalisme de gauche qui s'est affermi au fil du temps. La première ministre actuelle, Mette Frederiksen, est justement une de ces porteuses de valeurs nationalistes. Je crois qu'il y a eu un moment donné qui se situe juste après ce qu'on a appelé en Europe la crise des migrations, ou plutôt la crise de l'accueil des migrations, un durcissement qui s'était déjà enclenché, comme vous venez de le dire, et il me semble effectivement qu'on a parlé de changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, 2019-2020, un peu avant la pandémie, est quelque chose qui a fait du Danemark un pays qui a devancé d'autres stratégies politiques ailleurs en Europe. Et à ce titre-là, le Danemark, petit pays de 6 millions d'habitants, effectivement, est devenu une sorte de modèle avec des mesures assez spectaculaires, on pourrait dire. Spectaculaires. Alors, vous en avez évoqué un certain nombre déjà, mais il me semble qu'il y a un concept qui est très important, c'est l'idée de fragiliser les migrants qui viennent au Danemark.
Les fragiliser.
Notamment, oui, les fragiliser dans leur position. Pendant longtemps, le Danemark, c'est quand même un pays, c'est le premier pays qui a voté la ratification de la Convention de Genève en 1952 sur les réfugiés. Et vous l'avez dit, c'est un pays qui, au départ, était plutôt vu comme un pays tranquille, un pays serein sur ces sujets, voire très tolérant. D'ailleurs, on a souvent classé le Danemark parmi les Danois comme les habitants les plus heureux du monde, parmi les pays scandinaves. Ce qui peut-être est un peu écorné par cette vision très sombre du multiculturel. Le principe, justement, est de considérer que tout migrant qui arrive au Danemark est soumis à un retour potentiel très rapidement. C'est-à-dire que, je donne un exemple très simple, c'est le Danemark est le seul pays qui a renvoyé chez elle des populations syriennes, considérant qu'il y avait des zones sûres, entre guillemets, en Syrie.
D'accord.
Je pense notamment à Damas. Et donc, entre 2019 et 2023, il y a eu 600 environ, Syriens qui sont repartis. Et je crois que c'est un principe qui s'est généralisé. Et là, on est effectivement dans un changement de paradigme, parce que pendant très longtemps, et c'est aussi le cas en France, hein, les réfugiés devaient être stabilisés. Une fois qu'ils avaient passé le seuil de l'acceptation, leur ambition était de rester pour la plupart en France et de vivre en France. C'est très longtemps dans l'histoire, ça s'est développé comme ça, les réfugiés espagnols, d'autres réfugiés. Et là, on entre dans l'idée que tout réfugié doit être amené à un moment donné repartir de chez lui. Hein. Le slogan, c'est justement hein, « Vous êtes ici ». Tant que vous avez besoin d'être ici, mais quand vous n'avez plus besoin d'être ici, eh bien, on vous renverra chez vous.
Je me tourne vers l'heureuse propriétaire d'une Renault Modus très peu kilométrée, Marie de Broer. On va le découvrir aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement humoriste.
Bah oui, moi, mon vrai métier, c'est critique ciné. Hein. Vous savez, j'adore la péloche. Hein. Je peux vous dire, j'en ai bouffé du Blu-ray. Moi, ado, j'avais pas un poster de Pulp Fiction dans ma chambre. Non, trop classique. J'avais un poster de Citizen Kane, mon film préf, un film qui parle de Citizen et de Kane. J'ai un podcast de ciné aussi, qui s'appelle Les Post-it du Cinoche. Voilà, c'est un pied de nez au cahier du cinéma. C'est un podcast où je donne mon avis en quelques secondes sur le 7e art. Par exemple, dans le dernier épisode, j'ai parlé de Fight Club et j'ai dit que c'était pas mal. Voilà, donc abonnez-vous. Mettez 5 étoiles sur vos applis de podcast. Donc, j'ai vu pour vous le nouvel opus d'Avatar hein, à la Projo Press pour les pros. Le film s'appelle Avatar de feu et de cendre. En fait, le pitch, c'est les Navis, les bonhommes bleus là, qui découvrent le barbecue. Voilà, donc le petit bois, l'allume-feu, le charbon, la braise, ils découvrent tout ça. Quoi. Ils font des petites brochettes, des chipots. Ah non, pardon, c'est le pitch de... Ah bah, c'est le pitch de Barbecue, le film avec Franck Dubosc. Rien à voir. Oh là là. Barbecue qui est pas mal, d'ailleurs. Bref, mais alors, pour vous parler d'Avatar 3 et de James Cameron, je vais citer mes confrères du Figaro. La poésie numérique de son univers exotique et enchanteur est toujours aussi sidérante. Et je suis tout à fait d'accord hein, sur tout ce qui est poésie, numérique et enchanteur. Quel plaisir hein, de retrouver la planète Pandora, hein, qui tient son nom des boutiques de bijoux Pandora. Ça, peu de gens le savent. Hein. En fait, la planète manège à bijoux du Leclerc de Bois d'Arcy, ça sonnait moins bien. Et du coup, James Cameron a choisi Pandora. Quoi. C'est fun fact. Bon, je vais quand même critiquer un peu le film. Voilà, je suis là pour ça. Je suis critique ciné. Je ne suis pas complaisant ciné. Déjà, la durée, 3h17. Bon, c'est long. Hein, c'est 3 minutes de plus que Titanic. Et dans Avatar, il n'y a pas de scène de cul avec Leonardo DiCaprio qui se met du fusain dans l'urètre. Donc bon. Mais vous connaissez pas cette scène de Titanic. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu la Uncut Director's Version. Et bref, c'est juste après qu'il ait dessiné la nibar de Kate Winslet. Il lui reste du fusain. Et bref, bon, ça se regarde plus que ça ne se décrit, hein, ce grand moment de cinoche. Donc ouais, sur Avatar 3, pas assez de scènes de cul. Voilà, hein, première critique. Enfin, il y a une scène quand même où il y a une Navi qui tripote la tresse d'un Navi en le regardant droit dans les yeux. Voilà, elle touche sa longue tresse de 70 cm avec ses longues mains à 4 doigts. C'était un peu cul, ça. Mais bon, ça reste des cheveux qu'elle tripote. Quoi. Ça excite personne. Sauf peut-être Franck Provost. Mais voilà, faudrait que Franck voie le film et après lui demander est-ce que la scène de tripotage de tresse... Enfin, c'est trop compliqué. Voilà, soyons sérieux 5 minutes, s'il vous plaît. Dans Avatar, il y a un sujet, je trouve, au niveau de la représentation des corps. Voilà, ils sont tous gaulés, quoi. Les ventres sont plats, les abdos saillants, les queues immenses. Enfin, je trouve qu'en termes de standards de beauté des Navis, c'est pas top, quoi. Quel exemple pour les enfants Navis, hein ? Un beau Navi, c'est forcément un Navi qui fait 2m30, qui pèse 210 kg par un gramme de plus. Non mais oh, attendez, c'est pas très body positif, le James Cameron. Tu vas me dire que Melissa McCarthy n'était pas dispo pour un petit rôle ? À d'autres. Il n'y a que moi que ça fait rire dans ce studio. Mais moi, j'adore.
C'est ça qui est drôle.
Par contre, il y a quand même de la diversité dans le film, parce que les Navis ont adopté un humain, et c'est un blanc à dread, qu'ils appellent Spider. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Spider, hein ? Il doit pas nous fabriquer des bijoux en macramé sur les bords de plage du sud-ouest, ici. Il doit pas nous faire une reprise de Louise Attaque au didgeridoo. Oh là là, Spider, j'ai senti l'odeur de son sarouel à travers l'écran. Et ça j'ai trouvé ça très fort. Je m'attendais pas à ce que ça soit un film en 4D. Hein, et à un moment, j'ai même été étonnée, parce que lors d'une scène avec des flammes, j'ai senti une grosse odeur de soufre. Et bon, en fait, non, c'était pas la 4D. J'étais assise à côté des journalistes des Inrocks. L'after show la veille a été pimenté. Ils ont embaumé tout le UGC.
Merci Marie Debreur. À suivre, que sont les bossware, ces logiciels qui servent à espionner les salariés? Quentin est venu vous demander si ça vous inquiète. On parlera évidemment de speed dating avec Léa Toussaint, alias Merci beaucoup. Le temps d'un petit Bertrand Belin, berger sur France Inter.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre au bas des falaises. Adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut, c'est l'ondé, il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. Peur de le perdre au bas des falaises. Adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise.
Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom sur les bossware, ces logiciels qui permettent aux employeurs de savoir ce que vous faites pendant votre travail et votre télétravail. On est avec le journaliste Clément Pourret qui a enquêté justement sur le sujet. Clément, déjà si mon employeur se rend compte que je m'achète un billet d'avion, que je surfe sur les réseaux sociaux pendant mes heures de télétravail, même si le travail est fait, est-ce que je peux être soumis à des sanctions ?
C'est une bonne question. Moi, je dirais que non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usage de la surveillance aujourd'hui ne sert pas tant à sanctionner les gens. Il sert à les faire travailler plus. On n'a pas besoin de les sanctionner. Il suffit que je vous donne l'impression que vous êtes surveillé, vous allez travailler plus vite, plus efficacement. On va sanctionner souvent, en vrai, ces logiciels-là quand on a un problème déjà spécifique avec le salarié.
D'accord.
Par exemple, je suis votre employeur, j'ai un problème avec vous. Je vais chercher dans mes petits fichiers internet et je vais trouver des...
Monter un petit dossier contre
vous. Exactement.
Est-ce qu'ils peuvent être installés dans des ordinateurs ou dans des téléphones personnels qui n'appartiennent pas à l'entreprise ?
C'est toujours pareil, légalement non, potentiellement oui, puis surtout qu'on a une confusion en fait entre le personnel et le professionnel. Enfin, plein de salariés en fait qui
utilisent leur ordi personnel. Et c'est juste un logiciel, c'est un truc qu'on peut télécharger, on reçoit un mail de l'entreprise et en fait on le télécharge. Comment ça se passe en fait?
Souvent c'est les entreprises qui les imposent, parfois pour des raisons de sécurité. On va dire par exemple on va surveiller vos communications pour être sûr que vous téléchargez pas un virus, quelque chose comme ça. Et on va aussi... comment dire, vous forcer à les utiliser. Ça peut être aussi juste l'environnement numérique de travail sur lequel vous connectez, Teams, des choses comme ça qui vont ensuite servir à vous surveiller.
Mais est-ce que c'est fait avant? Par exemple, moi, Radio France m'a donné un ordinateur portable pour que je travaille à l'extérieur.
Mais ça marche pas.
Est-ce qu'avant de me le donner, il est équipé de ce logiciel?
Alors,
pas forcément Radio... là. Non, mais pas forcément à Radio France. Mais voilà, en règle générale, quand on fournit le matériel aux salariés, est-ce qu'il peut être équipé de ce logiciel?
Oui, l'employeur va souvent, quand il fournit un appareil téléphonique ou quelque chose, il y a déjà des choses préinstallées. Il y a des services d'ailleurs informatiques. Et par ailleurs, c'est aussi normal, hein, une entreprise, elle contrôle son parc informatique, il y a des enjeux de sécurité de la donnée, etc. En fait, souvent, ça se situe dans cette question sécurité, préinstallation, organisation du travail informatique et surveillance. Et les deux peuvent être un peu liés. Et moi, plein de sources dans le bouquin, typiquement, c'est des gens en fait qui ont appris ça parce qu'ils travaillaient dans les services informatiques et que d'un coup ils voyaient que leur employeur leur forçait d'installer ça.
Alors en tout cas, il n'y a pas de rébellion massive contre les bossware. Pour comprendre l'acceptation de ces logiciels dans notre vie quotidienne, vous parlez dans votre livre, Les Nouveaux Contremaîtres, de l'effet cliqué. De quoi il s'agit ?
L'effet cliqué, donc c'est en technologie, c'est l'idée quand on utilise un nouveau logiciel, une nouvelle pratique technologique, à partir du moment où elle est suffisamment généralisée, il n'y a pas de retour en arrière. Mmh. On a vu ça par exemple avec les caméras au début, sur les caméras de surveillance, tout le monde râlait, puis maintenant c'est dans l'espace public, ça ne sert toujours pas à grand chose en vrai, mais on continue à les employer. Quoi. Et c'est la même chose, les bossware sont arrivés, donc on s'est habitué en fait à ces conditions de surveillance.
On sait à peu près combien d'entreprises françaises les utilisent aujourd'hui ?
Il y a des chiffres, les plus récents, c'est de l'OCDE en février 2025, si je ne me trompe pas, qui disait que 70% des entreprises en France utilisaient des logiciels de surveillance. Après,
c'est énorme quand même.
C'est énorme, c'est énorme.
Ouais. Il est possible que même autour de nous, des gens soient entre guillemets surveillés.
En sachant que la catégorie en fait logiciel de surveillance, elle est un peu plus large que les bossware hyper intrusifs qui vont tout contrôler. Moi, si dans la par exemple contrôler le temps de travail des gens, c'est déjà un logiciel de surveillance. Donc il y a probablement moins. Et ces études aussi, elles concernent les grandes entreprises. Là, on a un flou, c'est sur les TPE et les PME où en fait on ne sait pas quelles sont la réalité des pratiques de surveillance pour ces salariés-là.
Et est-ce qu'il y a des bossware qui peuvent nous enregistrer, voire nous filmer avec la webcam à notre insu?
Alors ça existe, notamment il y a un logiciel appelé Time Doctor qui fait ça.
Time Doctor.
Un des leaders du secteur. Moi, un logiciel que j'aime beaucoup, c'est Daze. C'est un logiciel qui se connecte, alors qui n'est pas utilisé en France à ma connaissance, qui se connecte avec les mondes connectés des salariés et qui vérifie qu'ils dorment assez bien pour être assez productif. Ça vous donne des petits conseils.
Ah non, mais je parle en tant que patron. Non, mais en tout cas, c'est étonnant que la technologie puisse... Mais qu'ils aient pensé à faire ça.
C'est un énorme enjeu. La même chose sur la Femtech, c'est tous les logiciels utilisés, par exemple, pour les questions de règles, tout ça. Il y a des connexions qui commencent à s'établir entre les employeurs et les connexions, les données de santé pour vérifier.
Pas de problème, ça. Manon,
oui.
Ça vous fait
réagir. Vous savez où j'en suis dans mon cycle?
Ah, pas du tout. Je ne vous pose même pas la question, je pensais que vous vouliez réagir. Si Cyril avait installé un bossware sur le téléphone de Quentin, il saurait que ce dernier lui ment. Depuis plusieurs années maintenant. Non, il n'est pas sur le terrain à 8h du matin pour peaufiner son micro-trottoir, parce que le logiciel lui indiquerait que le réveil de Quentin est réglé à 10h45 et que la première page qu'il consulte n'est pas lemonde.fr, comme il lui avait juré, mais Karting News, le site de référence de l'actualité du kart. À moins que Cyril sache déjà tout ça et qu'il ait juste choisi de fermer les yeux, rapport à cette bromance malsaine qui... Bref, Quentin, racontez-nous, les passants que vous avez croisés connaissaient l'existence de ces bossware?
Moyen, nous sommes le dimanche 14 décembre, donc hier à 16h40, je marche sur un boulevard dans l'Est parisien, je porte un bonnet noir pour m'abriter des 6 degrés que m'offre la rue, qui est en quelque sorte mon poste de travail, si on y réfléchit bien. Alors que j'enchaîne quelques échecs et refus d'obtempérer à mon micro, je vois ces deux potes, la petite trentaine, qui me lancent des regards, ils s'approchent.
Vous ne seriez pas Quentin, lui, par hasard?
Merci, les gars.
Salut.
Bonjour. Incroyable. Comment ça va?
Ça va, et toi?
Ça va, ça galère un peu. Il fait pas chaud.
Et en plus, je pensais pas que tu bossais le dimanche.
Je bosse tous les jours.
Mathieu Noël n'a aucune race.
C'est-à-dire qu'en le remplaçant à Poitiers, j'ai dû rattraper un peu sur le week-end, mais je le connais, il va me dédommager sans problème.
Évidemment.
Allez, on revient à Jean qui bosse dans le domaine bancaire. Il découvre le thème du jour. Quand les boss nous surveillent, est-ce qu'il les a vus arriver? C'est...
Les boss wares. À titre perso, non. J'avoue que dans la banque dans laquelle je travaille, on va dire qu'il y a une certaine liberté.
Néanmoins, j'ai entendu parler du fait qu'on était quand même monitoré. Être monitoré, bah, c'est quand on va enregistrer, on va dire, la quantité de travail fourni, que ce soit justement le nombre de clics. Je sais que la petite phobie, on va dire, de mes collègues en télétravail quand ils sont pas très actifs, c'est de paraître en orange sur Teams et plus en vert. Parce que ça veut dire que t'as pas touché ta souris depuis un moment.
Mais ça, c'est déjà une forme de surveillance. Wow.
C'est vrai. C'est vrai, je sais, j'ai déjà entendu des managers. Est-ce que ça, on peut activer cette option sur le logiciel où, à partir du moment où la personne repasse en vert, bah, on a une notification.
Et il me dit que tout ça ne lui inspire rien de bon.
Je parle vraiment à titre perso, mais moi j'ai un contrat cadre, donc théoriquement je suis censé pouvoir organiser ma journée comme je veux. Donc si pendant une heure, quelle qu'elle soit dans la journée, j'ai envie de pas bosser et donc de pas être sur mon ordi, normalement ça me regarde. Et c'est pas forcément très, très équitable et pas forcément très sain.
Il me confie que le fait d'être monitoré, ça j'ai un mot que j'ai appris, capte même les sites qu'il visite, Cyril en parlait. Je lui demande sur quel genre de site il va.
Uniquement les sites dédiés au monde professionnel, promis. Et bon, parfois un peu bon, Netflix quand je suis en télétravail, c'est pour avoir un bruit de fond.
Mais ouais. Zoom Zoom Zen, tu seras pas emmerdé. Attends, tu me montes ton portable? Oh non.
Je suis un très gros fidèle de Zoom Zoom Zen.
Ah mais vous êtes en train d'écouter la démocratie gazeuse. Très bonne émission.
Et pourtant j'ai pas 75 ans, je suis pas prof. Donc comme quoi, j'aime faire mentir les statistiques également.
Il aime faire mentir les statistiques et il est très drôle. Ma deuxième rencontre est une bilingue. Et vois de quoi on parle.
Les boss wearers. C'est typique du management à la française où on est obligé de contrôler ses salariés et de justifier son travail. Ça fait un peu ouais, Big Brother, c'est le manque de confiance qu'il y a en entreprise. Je crois que pour moi, c'est typiquement français. Bon, on a vu qu'il y a eu un retour en arrière derrière sur le télétravail.
Elle n'y est pas directement confrontée, mais...
Non, mais je sais, j'ai toujours un pote qui me dit « Ouais, je suis connectée sur Teams pour mettre la petite pastille verte. » Et en fait, je suis dans ma cuisine en train de faire une quiche ou... Mais alors, ça veut pas. Là, c'est donner raison du coup à ceux qui installent le logiciel. Mais
ce que j'allais dire, c'est que est-ce qu'ils ont pas raison de contrôler un peu ? S'il y en a qui font des quiches.
Non, parce que c'est pas parce que pendant deux heures tu fais autre chose, mais que derrière t'as eu une productivité pendant trois heures d'affilée, alors qu'au travail t'aurais pas forcément eu cette productivité, t'aurais été dans l'oisiveté pendant plusieurs heures.
Voilà, à scroller sur Vinted ou à regarder des bandes annonces. Hein, Manon Mariani, tout va bien. En fait, en réponse à cette histoire de culture de flicage à la française, elle m'oppose forcément des modèles du nord de l'Europe, la Finlande, la Norvège.
Pour parler à des gens qui sont en Suède, il y a quand même une confiance employeur-employé qui est un peu plus renforcée. En France, quand on part à 17h, on va nous dire « t'as pris un RTT » ou « on va te souhaiter une bonne après-midi ». Alors qu'en Suède, c'est pas ça. On n'a pas forcément à justifier le fait de partir plus tôt. Si tu pars plus tôt, c'est que ton taf, il est fait. En France, c'est vrai qu'il y a quand même cette suspicion. Si tu pars plus tôt, c'est que tu voles quelque part ton employeur alors que...
Alors qu'en fait, tu fais juste bien ton taf. Et c'est vrai qu'en France, il y a cet héritage du pointage qui fait bien boomer aujourd'hui. Ma dernière rencontre, cesser à notre mot compliqué à prononcer.
Les boss wears.
Ça, c'est un bel accent.
Ouais, je suis franco-américaine.
Oh. Ok.
D'accord, oui, ça fait sens.
Ouais, mec, c'est Cyril. Cyril Lacaire qui déteste cette tournure en français, mais elle a le droit à cette petite erreur. Pour elle, il faut se méfier.
Oui, non, c'est sûr. Enfin, on est de plus en plus dans une ère digitale. Il faut s'adapter. Je pense que les gens ne savent pas trop forcément ce qui se passe. Et c'est sûr, je pense qu'on est très vulnérable dans le monde du travail.
Est-ce qu'il y a une mentalité différente du salarié et de la subordination aux US ou en France ?
Je pense qu'en général, les gens se sentent très fliqués aux US, oui.
Ouais. Mais ils l'acceptent et ils vont bosser.
You gotta work, you gotta survive. It is what it is.
Je reviens sur le mot vulnérable employé par Juliette. Tout se digitalise, tout va vite et on n'a pas forcément conscience de ce qui se joue derrière. On arrive dans un monde où les salariés commencent à douter, pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce qu'ils se sentent de moins en moins libres et qu'un salarié pas libre, ça n'innove pas, ça ne crée pas, ça ne progresse pas en toute sérénité dans l'entreprise. Donc là, on a une ironie totale. À trop vouloir contrôler leurs équipes, les boîtes finissent par freiner exactement ce qu'elles attendent d'elles.
Bonjour Léa Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes sexothérapeute, votre compte Instagram, merci beaucoup, est suivi par près de 300 000 personnes, bravo. Voilà. Vous avez réalisé aussi une série de podcasts, mais si on vous invite aujourd'hui, c'est donc pour nous parler du renouveau des speed dating. Franchement, on pensait que la tendance avait disparu, moi je pensais ça. Et c'est Manon qui m'a assuré que ça revenait et que c'était vous qui leur avez donné un second souffle. Alors vous voilà, vous allez tout nous expliquer. Est-ce que le retour du speed dating, eh bien, c'est la conséquence de notre fatigue du numérique, de la conséquence de la dating fatigue dont nous parle souvent Manon ?
Ouais, complètement. Du numérique, je pense, de manière générale, les dernières années, on a été tellement sur les réseaux, tout s'est internetisé, on va dire, qu'on a, je pense, besoin de revenir à la rencontre facile, simple, directement, les regards, les sens, tout. Et ouais, un besoin de revenir à l'humain, tout simplement.
Comment vous vous êtes rendu compte, vous, que les célibataires avaient, les célibataires d'aujourd'hui, avaient de nouveau envie de se rencontrer en chair et en os, justement, plutôt que sur les applis? On vous a envoyé des DM sur
Insta. Moi, on m'a demandé, très concrètement, on m'a demandé, je fais du contenu où je parle de sexualité, et les gens m'ont dit, super tes contenus, maintenant avec qui je fais ça? Avec qui j'applique ces choses-là? Et du coup, je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de personnes qui m'en parlent, est-ce que je réunirais pas les gens intéressés par le sujet? Donc il y a quand même quelque chose qui est très centralisé, et un intérêt qui est commun, en tout cas.
Il est super, ce lien que vous avez avec votre communauté, parce que c'est ça, vous déconstruisez aussi pas mal de choses, hein, pour les garçons, pour les femmes. Effectivement, il fallait se faire rencontrer des gens safe des deux côtés.
Exactement.
C'est ça l'attente. Comment vous avez réussi à créer ce lien de confiance avec les gens?
Bah, je pense que c'est en parlant de ce sujet, tout simplement, d'être une personne qui publiquement ose discuter de ces choses-là de manière très simple, comme si je parlais de ma liste de courses ou de mon dernier voyage. Ça met les gens à l'aise. Et en fait, le fait de les réunir après... Moi, ce que j'avais peur, c'est... En fait, finalement, les gens qui se réunissent, est-ce que tout le monde va être dans la même mouvance? Et en fait, il y a un espèce de truc de confiance qui s'est créé, où on sait que je suis un peu le pion au milieu, le gage de confiance. Et au final, le truc qui ressort, c'est hyper bienveillant. Je rencontre des gens qui sont dans le même intérêt et ça marche.
Est-ce que ce besoin, cette envie de se rencontrer dans la vraie vie, c'est aussi une conséquence de MeToo, du cyberharcèlement? On a moins envie de s'exposer sur le numérique.
Oui, je pense qu'on a besoin aussi d'espace où on sait que ça devient difficile. Aujourd'hui, on a dit la drague dans la rue, on commence à être fatigué, la drague dans les espaces qui ne sont pas faits pour, on est fatigué. Et le fait de créer un cadre spécifiquement pour ça, je pense que pour les meufs, d'un côté, c'est plus safe et on peut se détendre parce qu'on sait. En fait, on vient, on choisit de venir et d'être dragué. Et pour les hommes aussi, c'est pareil, c'est un espace où on sait qu'on va pouvoir le faire et qu'on va pas être taxé de quoi que ce soit parce que c'est fait pour. Et je pense qu'on a besoin de se détendre à ce niveau-là et de un peu respirer, quoi.
Il y a beaucoup d'hommes, justement. Je suis assez étonnée, je sais que c'est paritaire.
Oui, il y a beaucoup d'hommes. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont inscrits. En général, les hommes, c'est la liste d'attente, elle est longue et il faut vraiment les billets partent en un jour pour les hommes. Donc il y a quand même une envie qui est là, mais je pense que c'est ce truc de, en fait, le résultat de toutes ces années où on s'est un peu genre renfermé, on ne sait plus trop comment faire, et là, enfin une solution.
Ah oui.
Pardon, mais c'est plutôt un bon signal, parce que vu les contenus que vous mettez en avant sur votre page, c'est plutôt bien.
Il faut décrire un petit peu du coup, Quentin.
Bah ça va être des pratiques, ça va être vous parlez de consentement, vous parlez de dialogue, vous parlez de plaisir anal aussi pour les hommes, qui sont souvent des tabous. Et donc je trouve que c'est un bon signal d'avoir des hommes qui veulent rencontrer des femmes avec lesquelles ils vont pouvoir faire ça tout en sécurité, quoi.
Complètement. Sachant qu'on s'est dit dès le début des soirées, on reparle de consentement, on reparle de rôle de genre, on reparle de tout ça, on cadre bien tout ça. Et en fait, au contraire, je pense que ça aide et ça donne d'autant plus envie.
Est-ce que l'objectif d'un speed dating, c'est aussi l'efficacité? Avec votre formule, quel est le taux de réussite?
Et comment on joue? Qu'est-ce que le taux de réussite déjà? Même
bah, savoir si c'est pour se rencontrer pour.
Je crois qu'on avait calculé qu'on est un truc comme 70% de crush, en tout cas. Il y a des gens qui sont attirés par d'autres, il y a des choses qui se passent. Après, je crois qu'il y a au moins une personne sur 10 qui repart, donc du coup deux. Logiquement,
une personne qui
repart de la soirée avec quelqu'un. Donc ce serait deux personnes, parce que toute seule, ce serait bizarre.
C'est pas mal, bon rapport qualité.
C'est pas mal, en vrai. Donc non, ça marche.
J'ai vu que vous organisiez aussi des speed dating pour les homos et les bi. Est-ce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est un peu hétéronormé ce qu'on se raconte? Ça, c'est le même principe, ça marche pareil?
Ça marche exactement pareil. On a fait moins d'éditions parce qu'on les remplit moins bien. Mais c'est dans notre objectif de développer parce qu'en vrai, tout le monde a besoin de ces rencontres-là et de ce cadre en fait en particulier. Même si les rencontres ne se font pas exactement dans la même dynamique et pour les mêmes raisons, juste d'avoir l'occasion de sortir un peu de son cercle et rencontrer d'autres personnes, ça fait du bien.
Merci Léa Toussaint d'être venue nous parler de ce retour de hype du speed dating. À suivre, un Zoom Zoom test consacré au dérive de la drogue, une pièce jointe de Manon Mariani et tout de suite Kendrick Lamar, Peekaboo sur France Inter.
What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Aye. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none.
Pickable, I just put them boogers in my chain. Pickable, 80 pointers like a Kobe game. Pickable, 7-6-2s, I'll make them plank. Pickable, popping out, you better smell my name. Pickable, put 2 foreigns on a 405. Pickable, catchy pepper, here from doing pasta. Pickable, why you acting tough on IG Live? Pickable, you know my little niggas off they rocker. Pickable,
surprise bitch, it's that nigga chicken cheese. Pickable, let me FaceTime my op, bitch, I'm up the street. Pickable, yes, AZ, I'm putting something to sleep. Pickable, he on the ground, I praise God and start stumping feet. Pickable, I put 10 on his face, bitch, my shooter playing. Pickable, I hit it from the back, I told her move her hands. Pickable, then slide my thumb in where her at. Pickable, on your top, I'm with Dot, bitch, don't look back.
What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Hey, that's my bitch. Hey, that's my bitch. Hey, with all that fake shit. Hey, ain't the one to play with. Hey. Pull off in a lamb, double pocket all that tams. Mister, get off on your mans. If he hand you disrespect, you better follow up with hands. Losses to the neck, but now I'm trophied up. I'm saying like, bing, bop, boom, 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 bop, bam. The type of shit I'm on, you wouldn't understand. The type of skits I'm on, you wouldn't understand. Big dog business, I would not hold your hand.
Broke bitch business, I cannot be your man. Never got his ass whooped until he opened up that can. Damn, alley hoop me bands, I'ma slam. Jam freak bitch, I like my Mac touching yams. Pay that op shit around me, I'ma tell you turn it off. Heard what happened to your mans, not sorry for your loss. Should've prayed before them shooters came and nailed him to the cross. I let your boy get a pass, bitch, you lucky you saw. For real.
What they talking about?
They talking about nothing.
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 Huh? They ain't talking about nothing. Hey, what they talking about?
They talking about nothing.
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 Huh? They ain't talking about nothing. Pickable.
France Inter. Zoom zoom zen.
La drogue est un fléau qui frappe aveuglément. J'y suis moi-même confronté au quotidien avec mon co-auteur Gérald, dont les quiz sont si incongrus, parfois si décousus, que je soupçonne qu'il n'y a pas que des sachets de chocobons dans son calendrier de l'Avent. Effectivement, Manon, vous riez bêtement, vous démarrez le quiz avec un point de pénalité pour avoir appelé Gérald Gérard tout à l'heure dans l'open space. Oui, il ne s'en remet pas, il est retombé dans la chenouf. Quant à moi, qui jusqu'à présent avait une hygiène de vie réprochable, le tramadol que je prends depuis l'accident obscurcit mon jugement. Ainsi hier, quelle ne fut pas ma surprise. Moi qui d'habitude passe les fêtes de Noël chez les moines trappiste de l'abbaye d'Aigbel pour me ressourcer, de recevoir un mail de confirmation pour un séjour all-inclusive, tequila, droga et putas, dans un resort adulte only de Cancun. Comme quoi, la drogue fait vraiment faire n'importe quoi, elle n'épargne personne. La preuve avec ce quiz spécial addiction insoupçonnée des grands de ce monde, jouons au Zoom Zoom Test. Et on commence avec une boisson star de la deuxième moitié du 19e siècle. Vous la connaissez puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une question dans ce quiz et que chaque anecdote apprise dans le Zoom Zoom Test se grave à jamais dans vos mémoires. Oui. Mais si vous savez cette boisson dont on a appris qu'elle était l'ancêtre du Coca-Cola, que le pharmacien américain qui avait déposé la recette du Coca s'en était largement inspiré. Cette boisson, c'est bien sûr le Coca-Cola, le Beaujolais tonique ou le vin Mariani.
C'est. Mais dis, c'est un truc avec mon nom, je m'en rappelle.
Mon Dieu,
les
neurones ont connecté. Ah. Oui, non, mais alors déjà, vous êtes à la ramasse, vous êtes aux fraises, c'est une bonne réponse de Manon, effectivement.
Mais oui.
Vous l'aviez appris ici, l'ancêtre du Coca-Cola n'est autre que ce breuvage très en vogue au 19e qu'on appelait le vin Mariani.
Bah oui.
Et qui explique que Manon aujourd'hui n'a pas besoin de travailler. La vie vous joue des tours. Déjouez les soucis avec le vin Mariani, l'alliance délicate et vivifiante du bon vin de Bordeaux et des feuilles de coca aux vertus ancestrales. En buvant le vin Mariani, vous comprendrez pourquoi les Incas étaient toujours ravis. Le vin Mariani, la boisson préférée des grands hommes comme... Comme qui, tiens? Ah. Émile Zola?
Belle
le
transition.
Pape Léon XIII? Ou Thomas Edison?
Ah, Émile Zola.
Ça peut être plusieurs?
Non, mais on dit pas.
C'est, tout est possible dans le quiz, Quentin. Voilà. Moi, je peux pas jouer.
Si, bien sûr.
Vous pouvez.
B ou C?
Moi, j'ai dit A, Émile Zola. Aha.
B.
Oui,
mais c'était plusieurs réponses.
Ah, voilà. Et 3?
Oh oui, Quentin, bravo. C'est magnifique.
Ah.
En régie, on a estimé que c'était trop tard. Indispensable vin Mariani, qui fut un peu le vodka Red Bull de la fin du 19e. Et même si en régie, Pierre Courade se prend la tête dans les mains. Oui, non seulement Émile Zola, Thomas Edison, mais le pape Léon XIII lui-même était accro à ce goulayant jaja à la schnouf. Notons que Pie X non plus ne rechignait pas à s'envoyer un petit gorgeon de pinard tonifiant de temps en temps. Mais le plus convaincu, c'était donc Léon XIII qui est allé jusqu'à faire de la pub pour le vin Mariani et remettre la médaille du Vatican au fondateur de la marque. Imaginez Léon XIV faire une story pour la DZ Mafia. Asperger Pierre d'eau bénite, on l'a perdu et on en a besoin pour le petit carnet. Petit carnet qui, il ne me blâmera pas si je révèle ici ses petits secrets de fabrication, est rédigé frénétiquement, en quelques minutes seulement, sur un coin de table en régie, derrière cette performance inouïe, un produit, le Poppers. Mais ne jouez pas les surpris, tous les grands de ce monde ont leurs petits secrets pour performer. Par exemple, saviez-vous que Victor Hugo carburait à l'opium? Albert Camus ne se mettait jamais à sa machine à écrire sans avoir pris sa petite picousse d'héroïne. Voilà. Ou Jean-Paul Sartre ne prenait pas que des cafés crèmes aux fleurs, prenait aussi des amphètes.
Les trois. Les
A,
trois.
A et C. Camus, je suis pas sûr.
Mais il n'y a qu'une seule réponse en ce
moment. C'est l'opium.
C'est.
Manon, vous venez de salir la mémoire de Victor Hugo. Ouais. Vous pensez qu'il écrivait Les Misérables sous opium ?
Oui, ça ne m'étonnerait pas de lui.
Non, c'est une mauvaise réponse. Oh, c'était la réponse. C'est effectivement Quentin. Effectivement, étonnant, Jean-Paul Sartre.
C'est Sartre, hein, oui.
L'enfer, c'est les autres, mais sous en fait, ça passe, aurait-il pu ajouter. Et oui, le célèbre philosophe de l'existentialisme n'avait pas l'hygiène de vie la plus exemplaire. Écoutez plutôt, un litre d'alcool, deux paquets de cigarettes, des pipes de tabac brun, 200 mg d'amphétamine, 15 g d'aspirine et plusieurs grammes de barbiturique. Oh. Tel était son régime quotidien.
Mais il est mort à
On
quel âge ?
On comprend enfin pourquoi il a refusé le Nobel en 64, le pauvre vieux devait en descente. Mais justement, saviez-vous qu'un autre prix Nobel ne carburait pas à la Quézac ? D'après vous, lequel de ces grands hommes consommait régulièrement du speed ? Winston Churchill, prix Nobel de littérature en 53 ? Mikhail Gorbatchev, prix Nobel de la paix en 1990 ? Ou George Marshall, plan Marshall, prix Nobel de la paix en 1953 ?
B.
Churchill.
C'est une bonne réponse de notre invité. Qui prend la main ? Une réponse, deux infos. Gay savoir in the house, baby. Oui. Oh yeah, pardonnez-moi. Le combo tramadol d'Afalgan Codéiné est certes légal, mais il monte à la tête aussi sûrement que les enfants. Et oui, de Churchill, vous connaissez sa passion pour les gros cigares et les bons whisky bien tourbés, mais vous ne le saviez peut-être pas. Il tournait aussi aux enfêtes. Il les prenait pour lutter contre une dépression chronique. C'est d'ailleurs son médecin qui lui prescrivait directement. La deuxième info, c'est donc que Churchill il a volé son Nobel de littérature. En effet, en fouillant un peu dans les archives de l'Académie Nobel, ce que je fais évidemment, car à chaque question du quiz fait l'objet d'une enquête minutieuse, j'ai découvert que cette année-là, en 53, le jury n'était pas vraiment convaincu par les qualités littéraires de Churchill, mais qu'ils lui ont donné globalement pour lui faire plaisir. Tout n'est donc pas perdu pour Adios les Bibaros, le chef-d'œuvre incompris de Pierre Courade. Pierre, notre rédacteur en chef adjoint, dont on découvrira un jour qu'il est le fils qu'auraient eu Alain Souchon et Stéphane Bern par GPA. Deux indices, le buisson rigolo qui surmonte son crâne, très ressemblant à celui de ses deux papas, et aussi bien sûr sa passion pour les têtes couronnées. Oui, Pierre pourrait facilement répondre à la question suivante, quel dommage qu'il soit coincé en régie. Manon Quentin, si le prince Harry a avoué avoir déjà testé la beuh, la coke et les champis, tout ça c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui elle consommait sans vergogne quoi ? De l'opium au petit déjeuner ? Des chewing-gums à la cocaïne entre les repas ? Ou du cannabis pendant ses règles ?
Ouf. Oh waouh !
B,
moi je dirais l'opium, l'opium au petit-déj.
Alors, Laurent, c'est la réponse A, l'opium au petit-déj.
Moi aussi.
Ouais.
Vous aussi.
Et moi, j'irais B, moi, les chewing-gums. Oui.
Plusieurs réponses sont
possibles. A et B.
A et C.
Les trois.
Le C, c'était quoi ?
Les règles.
Le cannabis pendant ses règles.
C.
Donc, c'était effectivement les trois. Et Quentin était le premier à dire les trois.
Ah. Ouais. Je sais pas rien.
Pas la dernière. Après pour la défense, la reine Victoria, une reine dans l'air du temps, puisque rappelons que c'est sous son règne que le trafic d'opium atteint son apogée historique. Trafic qui représenta jusqu'à 20% des revenus de l'Empire britannique. Victoire de Quentin et sur la drogue, est-ce vraiment étonnant ?
Mais du coup, le cannabis aide pendant les règles. Première info.
Pour la douleur, peut-être, non ?
C'est anti-douleur.
C'est anti-douleur.
Cannabis thérapeutique.
C'est interdit, mais bon.
C'est interdit,
oui.
Attention, attention, les amis, si vos ados rient un peu trop fort dans leur chambre, ce n'est peut-être pas que l'âge bête et qu'ils ont découvert une nouvelle vidéo de Roman Dodwick. C'est hélas peut-être qu'ils se shootent au protoxyde d'azote comme des sagouins. Zoom cet après-midi sur ce fléau avec le médecin psychiatre spécialiste des addictions Laurent Carilla. Est-ce que, malgré tout, la lutte contre le narcotrafic, elle ne manque pas d'un volet prévention ? C'est vrai, il y a plein de drogues qui sont sous les radars et donc les jeunes peuvent tomber dedans en disant que finalement, en gros, c'est pas si grave. Est-ce que c'est même de la drogue ? On ne sait pas.
Non, la prévention, les gens se battent sur le terrain pour faire de la prévention, hein, ça, vraiment, je salue tous ceux qui sont sur le terrain, mais il y a pas assez, c'est pas assez impulsé, c'est pas assez impacté, les campagnes de prévention qui sont en one shot, ça a aucun intérêt, parce qu'on sait très bien qu'on peut dépenser des milliers d'euros dans une belle campagne, mais si c'est pas répété comme une campagne de vaccination, ça sert à rien.
Faut le faire à l'école.
Donc, il faut le faire à l'école, faut le faire sur les réseaux sociaux, faut utiliser les jeunes qui vont parler aux jeunes, les vieux comme moi, c'est bien, mais bon, moi j'écoute du heavy metal, je suis cool, il faut que les jeunes agissent avec les jeunes en fait.
À la suite de plusieurs drames récents liés à la consommation de protoxyde d'azote, ces trois adolescents décédés à la suite d'un accident de voiture à Alès, des bouteilles de protoxyde d'azote avait été retrouvé dans ce véhicule. À la suite de ces drames, certaines préfectures ont interdit l'usage de ce produit pendant les fêtes de Noël.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais il faut prolonger ces idées, en fait. C'est-à-dire que interdire, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait à côté des gens qu'il faut soigner ? Qu'est-ce qu'on fait à côté des gens qui doivent aller dans les écoles parler de ça ? Aussi informer les parents, informer le grand public. Tout ça, c'est bien. Il faut le faire, ça.
Comment les parents peuvent aider leur enfant à s'en sortir ?
c'est une question large, mais déjà, il y a des consultes jeunes consommateurs partout en France. Mmh. Donc, même si elles sont saturées, il faut aller taper à la porte parce que les parents peuvent avoir des infos. C'est souvent difficile pour les parents, un enfant, un ado qui souffre de consommation excessive, voire d'addiction, même si c'est plus rare les addictions chez les ados, mais ça existe quand même. On est plutôt dans l'excès, etc. Le premier message que je dis toujours aux parents, c'est qu'il faut maintenir un dialogue, en tout cas. Il faut maintenir un dialogue au sein de la cellule familiale pour voir un peu ce qui ne va pas et ce qui va aussi, et utiliser ce qui va pour justement guider vers ce qui ne va pas, et utiliser des tiers aussi si on n'arrive pas à s'en sortir en tant que parent.
Vous êtes addictologue et vous êtes aussi parent. Qu'est-ce que vous dites, justement, on peut se référer à vous, qu'est-ce que vous dites à vos enfants pour les tenir éloignés de la drogue, de toutes les drogues qu'ils connaissent forcément par vous, par votre métier?
Ils les connaissent aussi entre eux, en soirée, etc. Mais ça, je vous dis, depuis qu'ils sont petits, je leur parle de drogue, d'alcool, de tabac. Alors, ce n'est pas trop une génération de tabac, les enfants de maintenant, c'est plutôt une génération de vape, etc. Mais pour ce qui est les consos d'alcool en soirée, ok, tu vas probablement boire en soirée, mais fais attention. Et puis, les substances, on leur parle des dangers. Mais des dangers mineurs. C'est pas genre on leur dit si tu bois, tu vas faire une cirrhose. Attention.
J'étais persuadé qu'il y avait des drogues plus dangereuses que d'autres, au sens plus addictives que d'autres. C'est-à-dire des drogues où on en prend une fois, on est addict, on a dit ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas.
Donc peut-être ce qu'il faut dire aux gens, c'est que toutes les drogues sont très dangereuses, parce qu'en fait, comme on ne connaît pas notre terrain génétique à nous, on peut être addict à n'importe quoi.
Exactement. On ne connaît pas nos propres facteurs de vulnérabilité à développer la maladie addictive. Donc il y a un risque qu'on ne peut pas prédire. Et en tout cas, il y a un message qu'on peut donner. Pour les jeunes et les parents, c'est plus on consomme tôt un produit, plus il y a un risque plus tard de développer une addiction. Ça, c'est clair.
L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une affaire aujourd'hui, une triste affaire. Nous sommes le 10 février 2023, en fin d'après-midi, sur une route départementale de Seine-et-Marne. Une voiture dévie brutalement de sa trajectoire. Elle roule à contresens et percute de plein fouet un véhicule arrivant en face. À l'intérieur, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois. La violence du choc est extrême. Les secours arrivent rapidement, mais les conséquences sont immédiates. Les trois occupants sont grièvement blessés. À bord de la voiture qui a provoqué l'accident, l'humoriste Pierre Palmade et deux autres personnes qui, selon Le Parisien, étaient des escortes, elles prendront la fuite. Dans les heures qui suivent, on comprend surtout que l'accident n'est pas dû à une simple erreur de conduite. L'enquête établit que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Les analyses toxicologiques révèlent la présence de cocaïne et de drogue de synthèse. L'humoriste reconnaît une consommation importante qui a eu des conséquences dramatiques. Les trois victimes sont blessées physiquement, mais aussi impactées psychologiquement. Et la femme enceinte a perdu son bébé à cause de l'accident. En novembre 2024, c'est le procès. Pierre Palmade est condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour blessure involontaire aggravée par la prise de stupéfiants. Il écope aussi d'une annulation de son permis de conduire, d'une interdiction de le repasser pendant des années, et il devra aussi indemniser forcément les victimes. La justice reconnaît la gravité exceptionnelle des faits, sans pour autant retenir l'homicide involontaire pour le fœtus, un point qui avait divisé l'opinion publique. Mais l'affaire Palmade dépasse le cadre pénal. Elle a ouvert un débat sur la banalisation de la consommation de drogue. Car lui, son addiction était connue, documentée, racontée depuis des années, y compris par lui-même, il en a parlé plusieurs fois. L'humoriste avait même été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. Et pendant le procès, il dira que ça fait 35 ans qu'il est addict à cette drogue. Une addiction qui s'est amplifiée les années avant l'accident, notamment à cause d'une autre drogue, la 3-MMC. Cette drogue de synthèse connue pour booster le désir sexuel, notamment très utilisée dans les soirée qui aime sexe, on en avait fait une émission. L'affaire Palmade a eu un effet révélateur autour de l'addiction et du chemsex, jusque-là largement cantonné à des cercles médicaux et associatifs, voire marginalisé autour de la communauté LGBTQIA+. Après l'accident, des organisations comme AIDE, ACT UP ou Fédération Addiction ont pris la parole pour rappeler que ces pratiques relèvent d'un enjeu majeur de santé publique et non d'une simple dérive individuelle.
Merci Manon. La chronique chantée de Yann Marguet, c'est juste après Liam Bailey, White Light sur Inter.
Mistakes of all we ever tight, go run for life.
Sa bande.
Le voilà installé avec sa pipe et sa moustache, mais est-ce bien Yann Marguet qui vient nous parler du sans-abrisme aujourd'hui ? Musique.
Ceux qui ne réfléchissent pas, qui pensent que les matelas qu'on voit à République ou dans les encadrements des portes d'un Jiffy ne servent qu'à des branle-cul dont le rapport au travail est plutôt symbolique voteront sûrement pour Madame Rachida Dati. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ou sur des trottoirs durs comme la trique de feu l'abbé Pierre. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ne peuvent plus le faire à cause des pics installés par les politiques. Quand du jour au lendemain votre vie bascule pour quelconque raison et que la rue vous avale tout cru avec vos mômes, vous aimeriez que l'État puisse vous fournir un toit, un logement, une maison et pas un plug anal géant sur la place Vendôme. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ou dans des quechua par moins 38 comme dans le cœur de Retailleau. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, créons-nous quelque chose d'empathique à part quand il y a Jeux Olympiques. Thomas était bien joli mais l'envers du décor était tristement moche quand on a bien caché tous les pauvres de Paris. Depuis, les clodos sont à nouveau les bienvenus pour s'allonger sur nos porches en attendant la prochaine visite de Xi Jinping. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, n'existent plus depuis 7 ans ou 8. C'est Macron qu'a promis. Les sans-abri qui dorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, sont pourtant toujours là, n'est-ce pas Brigitte, comme ces sales connes de féministes. Si seulement il y avait une loi depuis la fin de la guerre pour réquisitionner les logements vacants, ah mais oui c'est vrai, autant pour moi y en a une. Mais tant que son application se fera au bon vouloir d'un maire ou d'un préfet, les riches sont pas prêts de partager leur beau vestibule. Les sans-abri qui s'endorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, qui se réveillent dans un froid arctique si ils se réveillent. Les sans-abri qui s'endorment sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, 350 000 personnes à la rue. Le plus choquant, c'est que ça choque plus.
Merci Yann Marguet. À la réalisation de ce best-of, c'était Alicia Vulot. Rendez-vous lundi à 17h pour nos florilèges de fin d'année.
Zen.